Bonjour Monseigneur.
Bonjour Laurence.
Alors aujourd'hui, nous allons échanger, partager, vous écouter sur le phénomène, si on peut dire, hein, de la hausse des demandes de sacrement dans le diocèse. Et puis comment, c'est ce grand défi, comment accompagner donc toutes ces personnes que le Seigneur envoie et qui demandent les sacrements. Alors depuis 2000, on va dire que si on regarde un petit peu les statistiques, il y a eu une chute jusqu'en 2020, des demandes de baptême, des demandes de mariage, des demandes de confirmation. Et depuis 2020, il y a vraiment une forte hausse des demandes de sacrements dans l'Église catholique, aussi bien les baptêmes d'adultes, d'enfants, les confirmations, les mariages. Donc c'est un phénomène en France, mais aussi dans le Gard. Alors en France, on a plus de 10 000 adultes hein, qui ont été baptisés à Pâques en 2025, et 7 400 adolescents, 17 800 catéchumènes. Hein. Une hausse de 45% par rapport à 2024. Dans le Gard aussi, dans le diocèse de Nîmes, on constate une progression. 33 baptisés adultes en 2023, 53 en 2024, 96 en 2025 et en 2026, 149 futurs baptisés à Pâques pour 2026,
Oui, alors
sans
là, je.
compter 200 confirmés adultes.
Oui, plus les 80 adolescents, dont on a célébré l'appel décisif là, au mois de février. Donc 80 adolescents de la 6e à la terminale qui ont demandé d'être baptisés cette année.
Alors, pour vous, en tant qu'évêque de Nîmes, quel est votre constat pour le diocèse? Comment expliquer cette hausse des demandes de sacrements?
Quand on interroge les gens, alors, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde m'écrit une lettre, que ce soit en demandant le baptême ou que ce soit en demandant la confirmation. Parce que, pour expliquer aux auditeurs et auditrices, il y a des gens qui vont être baptisés à Pâques et qui vont être confirmés juste après. Puis il y a des gens qui ont été baptisés il y a longtemps, mais qui n'ont jamais été confirmés et qui demandent la confirmation. C'est pour ça qu'il y a une différence entre le nombre des adultes baptisés et puis le nombre des confirmés, sachant aussi que tous ceux qui vont être baptisés à Pâques ne demandent pas tout de suite la confirmation. Il y en a qui préfèrent attendre un an. C'est ce qui explique les chiffres. En tout cas, quand ils écrivent la lettre, ils disent leur motivation. Moi, j'en rencontre un certain nombre. En plus, on passe une journée ensemble un peu avant l'appel décisif, donc j'ai l'occasion de les faire témoigner, de les écouter. Je l'avais dit à cette antenne, et je pense que ça n'a pas tellement bougé. La première cause, c'est que vous avez beaucoup de gens qui disent, mais moi, en fait, j'ai toujours cru qu'il y avait un Dieu. J'ai toujours parlé à Dieu, ou en tout cas, j'ai toujours su qu'il y avait quelqu'un au-dessus de moi. J'aurais bien aimé qu'on m'en parle, mais j'étais dans une famille où il n'y avait pas de cathé, où on ne s'intéressait pas à la religion, ou bien on était athée. Bon, et donc, il y avait comme un cœur en attente. Un cœur en attente qu'on lui dise quelque chose. D'où d'ailleurs, je trouve, l'urgence, en tout cas la nécessité, que nous soyons témoins de notre foi. Parce que vous avez des gens qui ne veulent pas parler de leur foi parce qu'ils pensent que ça va déranger, mais moi j'inverse, si vous voulez, la charge de la preuve, c'est que je dis, vous avez des tas de gens autour de nous qui attendent, pas qu'on fasse du prosélytisme qui oblige, mais qui attendent qu'on dise quelque chose et qui attendent notre disponibilité pour leur parler de Dieu. Alors ça peut être simplement en disant aux gens qu'on va prier pour eux, ça peut être simplement en disant que bah oui, nous on est pratiquants, qu'on va à la messe, ça peut être en proposant la prière quand quelqu'un est dans le deuil, ça peut être en donnant une Bible, ça peut être en faisant visiter une église, ça peut être en répondant simplement à une question avec un peu de profondeur. La mission, elle est là, tout simplement. Dans tous ces récits de conversion, il y a forcément un témoin, un moment, un intermédiaire, quelqu'un qui parle et qui témoigne. Voilà. Et donc, ça peut être un prêtre, ça peut être un laïc, ça peut être une amie, ça peut être un collègue de bureau. Et alors, comment est-ce qu'ils viennent à Dieu? Vous voyez, par exemple, quelqu'un disait, ben, je fais des études de littérature et anglaise, et dans la littérature anglaise, on parle beaucoup de la Genèse, et donc j'ai commencé à m'intéresser à lire la Genèse, et puis j'ai demandé à quelqu'un de m'aider à lire la Genèse et l'Ancien Testament, et la personne a cheminé comme ça. Ça, c'est la première cause, c'est que, vous voyez, on parle de moins en moins de Dieu, Dieu est de moins en moins présent, disons, dans notre culture immédiate, si je puis dire. Et puis, bah, il y a beaucoup d'églises qui sont fermées, il y a moins d'offices, on a moins de traditions. Donc il y a moins de transmission, au fond. Et quand il y a moins de transmission, bah, il y a aussi des cœurs qui cherchent. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par des épreuves très lourdes et qui, au fond, ont trouvé Dieu, ont trouvé le Seigneur, parce qu'ils ne savaient plus sur qui s'appuyer. Ils ont fait une rencontre de Dieu dans cette épreuve. Je constate qu'il y a beaucoup de gens qui traversent des épreuves. Ça peut être des violences intrafamiliales, ça peut être des maladies. Ce sont des parcours parfois chaotiques et qui laissent les gens au bout de quelques années comme secs, vous voyez, comme désespérés, comme manquant d'espérance. Voilà. Et puis alors, il y a aussi des gens qui cherchent du sens, tout simplement parce que la société de consommation ne donne pas de sens. Elle donne un certain confort, si vous voulez, après lequel on peut courir. On peut aller en vacances de plus en plus loin, avoir dans des hôtels de plus en plus luxueux, si je puis dire. Bon, on peut avoir une voiture encore mieux, on peut aménager son intérieur. Et tout ça contribue à une vie bonne, à une vie sympathique, mais ça ne donne pas le sens. Or, il y a beaucoup de gens qui cherchent du sens en disant, voilà, moi, il me faut quelque chose de plus. Il faut que je prenne de la hauteur. Et ça, je pense que l'Évangile est capable de lui donner cela. Puis il y a des gens qui en cherchent de communauté aussi.
Ouais, la relation humaine, et puis Dieu passe par la relation humaine, ce que vous disiez.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a les Écritures, mais il y a aussi échanger, partager. Dieu va passer à travers les personnes.
Voilà, et ça, l'expérience du baptême, c'est l'expérience aussi d'une entrée dans une communauté concrète. C'est la première fois que je vois ça dans les lettres de demande de baptisés. Il y en a plusieurs qui disent « Le geste de la paix à la messe m'a énormément touché ». Comme si ce geste, peut-être qu'on ne fait pas spontanément, comme ça, dans la vie habituelle, on se tourne vers l'autre, on lui dit la paix du Christ, on lui donne une paix qui ne vient pas de nous-mêmes, mais qui vient du Seigneur, et on se la souhaite tout simplement parce qu'on est l'un à côté de l'autre. Il y a beaucoup de gens qui sont en recherche aussi de ce style, disons, communautaire, de cette fraternité. Voilà. Et donc, il y a plusieurs portes d'entrée dans le baptême, et ce qui est intéressant, c'est de les voir un peu toutes, et puis d'essayer de les comprendre, puis de les accompagner.
Alors, vous avez parlé aussi des jeunes, plus d'un catéchumène sur deux en France a moins de 25 ans. Ils étaient 8000 en 2025, c'est un chiffre considérable. Les témoignages des jeunes dans le Gard, est-ce que vous en avez rencontré? Vous avez dit, il y a 80 ados. C'est quoi leur profil? C'est des jeunes qui viennent d'un peu partout?
Oui, je dirais qu'ils viennent soit de nos groupes d'aumônerie, de nos groupes paroissiales. Ils viennent par leurs écoles catholiques. Ils viennent par leurs amis. J'ai remarqué que souvent les filles sont deux. quand on a reçu les jeunes comme ça, parfois c'est un petit groupe, quoi. Voilà, on arrive avec un ami, avec une amie, et puis c'est plus facile de faire la démarche ensemble. Et puis de se stimuler. Donc je pense que l'amitié a de l'importance. Moi je me rends compte aussi que les jeunes parlent beaucoup de leur famille. Ils n'ont pas envie d'oublier leur famille, même s'ils sont seuls à demander le baptême, parce que personne n'est baptisé dans la famille. Ils disent, mais moi j'ai envie de prier pour mes parents, j'ai envie de prier pour... J'ai envie qu'on soit unis dans le Seigneur. C'est très beau ça, j'ai entendu plusieurs témoignages. Je pensais que les réseaux sociaux avaient une importance dans cette demande de baptême, et en fait non.
Enfin, ceux que vous avez rencontrés...
Les jeunes à qui j'ai demandé, c'est pas du tout ça qu'ils m'ont raconté. On ne sait pas très bien comment ça passe,
mais
ils comprennent qu'il y a une démarche à faire. Et j'ai remarqué quand même que les familles laissaient la porte ouverte.
Étaient ouvertes à...
Oui, à ce qu'il y ait quelque chose qui change. Et alors, de manière assez remarquable, il y a des parents qui cheminent avec leurs enfants aussi.
Alors, je pensais au témoignage qu'on a de cette famille qui va être baptisée. Donc, c'est la petite Anna qui a entraîné toute la famille.
Oui, il y a deux familles. Mais il n'y a pas que, disons, la famille qui se fait baptiser toute entière. Parfois, c'est... un jeune qui fait sa première communion et du coup la maman qui le fait aussi. C'est un jeune qui demande la confirmation et c'est les parents qui disent « mais moi j'ai pas été confirmé, j'en profite ». Sans compter que l'expérience même parfois de la parentalité et de la maternité ouvre, disons, à la transcendance, ouvre à Dieu, ouvre le cœur en disant « mais ce petit bonhomme, cette petite fille là qui grandit devant moi, c'est vraiment un miracle du Seigneur, c'est tellement beau ». Et donc, c'est comme si Dieu se manifestait à travers un petit bébé, un petit enfant qui grandit.
Alors, est-ce que l'Église catholique peut baptiser tout le monde? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'il y a un discernement aussi spécifique à avoir pour recevoir les sacrements?
Oui, alors, quand on veut recevoir le baptême, on va voir en général le curé. Ou bien on va voir un ami, mais qui va voir le curé. Donc, il y a un moment où le curé de la paroisse, et puis qui demande à un accompagnateur ou à une accompagnatrice, en fonction un peu du profil de la personne, donc ce sont des fidèles de la paroisse, qu'on appelle aussi des catéchistes, qui vont les accompagner d'abord dans un discernement, dans une étape de discernement. C'est-à-dire, est-ce qu'un sacrement est possible? Est-ce que, voir un peu les motivations de la personne? Est-ce que la personne commence à lire l'écriture? Est-ce qu'elle commence à avoir une vie de disciple? Est-ce qu'il y a une conversion aussi? Parce que pour être baptisé, il y a aussi une conversion du cœur. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas encore en place.
Conversion, un changement de vie aussi. Hein, parce qu'il y a peut-être un tri à faire dans sa vie d'avant.
Il y a toujours eu une conversion des mœurs lorsque le baptême a été donné, pour voir si, tout simplement, on prend l'Évangile au sérieux. Il y a un premier temps de discernement, comme ça, où il va rien se passer, à part le fait de parler, de regarder un peu la situation, si familiale. Alors, parfois, un baptême n'est pas possible. C'est assez rare, mais parfois, ça n'est pas possible. Ça n'empêche pas que tout le monde a sa place dans la communauté. Tout le monde a sa place, parce que ce qui n'est pas possible une année, sera peut-être possible un petit peu après. Je pense que quand on arrive au baptême, il ne faut pas être trop pressé d'avoir comme une date déjà en tête, en disant « je vais être baptisé dans 3 mois ou dans 6 mois ». On prend souvent le temps de ce premier discernement, et puis ensuite de lire l'écriture, de méditer, de comprendre comment vit la communauté. Pourquoi ? Parce qu'au fond, oui, le baptême, ce n'est pas un acte magique. Et donc, il faut qu'il y ait un vrai oui de l'âme. Alors, le oui d'une fille qui est en sixième, il n'a pas peut-être la même portée que le oui d'une personne qui est dans la vie, qui a des enfants, qui a une... Oui, évidemment, c'est un oui qu'on donne à l'âge qu'on a, mais peu importe. Mais il faut qu'il y ait un oui, et que ce oui soit mûri, et qu'il est mûri avec la foi, mais aussi avec la raison. C'est-à-dire, au fond, est-ce que je commence à connaître cette religion? Est-ce que j'accueille l'évangile de Jésus-Christ? Est-ce que j'y adhère au fond dans mon intelligence, dans mon cœur, dans ma volonté, dans ma mémoire? Est-ce que j'ai envie vraiment de vivre cela? Et donc ça prend du temps, on ne peut pas décider ça en une minute.
Sachant que pour un adulte, il faut à peu près 2 ans de cheminement pour le baptême, concrètement. Et puis, il faut quand même aller à la messe toutes les semaines. Enfin, il y a quand même un engagement. Le jeune ou l'adulte qui veut être baptisé, il rentre dans une démarche où il faut qu'il pratique. On ne peut pas être baptisé si on n'a pas des rendez-vous comme ça réguliers.
Oui, c'est ça. Alors, on dit 2 ans. Bon, ça dépend un peu quand est-ce que vous arrivez. Parce que si vous arrivez un jour de Pâques 2022, vous pouvez être baptisé le jour de Pâques 2024. Bon, maintenant, ça fait 2 ans pile. Si vous arrivez en octobre, en novembre, vous voyez ce que je veux dire. Puisque les baptêmes d'adultes, en général, sont à Pâques.
D'accord.
Mais en tout cas, oui, il faut entre 1 et 2 ans pour faire un chemin, pour s'intégrer dans la communauté. Et puis parce que quand on consomme, vous achetez une voiture, vous décidez, vous achetez votre voiture, et puis vous utilisez votre voiture tout de suite. Ça, c'est les biens de consommation. Mais dans la vie spirituelle, dans la vie de l'âme, les choses sont plus lentes. Moi, je fais souvent la comparaison entre l'industrie et puis l'agriculture. L'industrie, vous avez des produits manufacturés que vous avez tout de suite, vous les faites, et puis à la sortie, ils sont consommables. Là, la vie spirituelle, c'est plutôt de la germination. Et donc, il faut du temps long. Il faut que ça soit un peu sous terre. Donc, pendant ces 2 ans, on a l'impression peut-être qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais on est un peu dans le souterrain pour que ça puisse éclore. Donc, il faut accepter ce temps long, parce que notre conversion à Jésus, elle n'est jamais finie. Elle dure toute une vie. Moi, parfois, je me dis, je ne suis pas encore converti. Si je commençais maintenant à être disciple, parce qu'on voit toujours le chemin qui n'est pas fait. Il faut entrer aussi dans cette sorte de... C'est le temps de la patience de Dieu.
La patience, la miséricorde aussi.
C'est la patience de Dieu, puis c'est la patience vis-à-vis de soi-même aussi.
C'est ça. Alors, c'est un grand défi pour un évêque, pour les prêtres, pour les paroisses, pour les ensembles paroissiaux, pour les paroissiens aussi, d'accueillir et d'accompagner ces jeunes catéchumènes. Alors, catéchumènes, c'est les personnes qui demandent le baptême. Ça bouscule un peu. C'est quoi les défis, les enjeux de les accompagner?
Alors, il y a 2 grands enjeux. C'est d'abord de trouver quelqu'un dans la paroisse qui va avoir du temps, de la disponibilité, puis qui a une formation pour pouvoir accompagner les catéchumènes à partir de là où ils en sont. Parce que les gens qui arrivent, Oui, justement, ça peut être la fille qui est en sixième, ça peut être l'ado qui a 17 ans, ou ça peut être une personne qui a 35 ans, qui a des enfants. Bon, voilà, il faut se mettre à la portée de la personne qui arrive, écouter son histoire et écouter son récit, voir pourquoi est-ce qu'il est là. Voilà, et puis commencer à lire l'écriture, et puis commencer une catéchèse aussi, hein, c'est-à-dire l'écriture lue dans la tradition de l'Église. Moi, je recommande en particulier de faire Fidéo, hein, aux catéchumènes, parce que les Fidéo, c'est une sacrée catéchèse pour tous. Et puis, on la fait en équipe, c'est jamais seul.
En vidéo, hein, la formation diocésaine hein,
C'est la
que vous
formation
proposez.
diocésaine pour les adultes qui se fait en petit cénacle de 4, 5, 6 personnes. Je trouve que ça peut être un beau lieu aussi quand on se prépare au baptême. Et donc, il faut entrer aussi dans la vie de prière. Et puis la vie de la communauté aussi. Voilà, la rencontre de la communauté, pas que le prêtre, pas que l'équipe catéchumène, mais aussi trouver sa place.
L'ensemble des fidèles.
Voilà, ça c'est la première chose. Le premier défi, donc, c'est d'avoir quelqu'un qui nous accompagne. Et puis le deuxième, c'est après le baptême, c'est est-ce qu'on a trouvé sa place dans la communauté? On ne prépare pas au baptême comme on prépare à un examen. Hein, on dit faut que tu saches des choses, hein, un minimum de trucs à savoir, parce que sinon tu pourrais pas être baptisé. Non, c'est d'abord une conversion du cœur, c'est une relation avec le Christ, et puis c'est une entrée dans la communauté. Et je pense que si au baptême, la personne n'a pas trouvé sa place dans la communauté, pourquoi elle reviendrait après le baptême? Or, justement, il me semble important de vivre sa vie chrétienne, non pas tout seul, dans son coin. C'est une fraternité, hein, le baptême. On entre dans une fraternité avec le Père. Et avec le Père des cieux. Et donc on a des frères et sœurs et qu'on se soutient. C'est pour ça que je pense qu'il faut bien prendre conscience que un baptisé qui arrive dans une communauté, c'est une grâce pour l'Église. C'est-à-dire qu'il vient comme une pierre que le Seigneur lui-même met sur la construction pour enrichir l'Église locale des charismes portés par la personne. Il faut absolument regarder comme ça, en se disant, mais je ne peux pas être indifférent à cette personne qui arrive parce qu'elle m'est donnée par le Seigneur. Elle est appelée. On a vraiment cette notion d'appel.
On peut dire aussi que c'est une sorte de petit renouveau aussi. Enfin, je pense par exemple quand on a été marié pendant. Bon, moi, je suis mariée depuis 25 ans et qu'on assiste à un mariage, eh bien, on se retrouve renouvelé. Et même, je veux dire, ces nouveaux baptisés, on revit aussi, pour les fidèles qui ont été baptisés depuis des années, on revit aussi toute cette démarche avec eux. Il y a une grâce de renouveau, il y a une grâce de fraîcheur aussi, leur enthousiasme aussi, quand ça fait très longtemps qu'on est dans l'église. Et je pense même aussi à des personnes âgées qui, toutes les semaines, récitent le chapelet dans leur paroisse, etc. Ça donne une espérance de voir ces jeunes, ces familles et ces personnes de tous âges demander le baptême.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est très rafraîchissant, hein, les baptêmes de Pâques. Tout le monde est très joyeux. Mais alors, du coup, il faut que chacun dans la communauté accueille ses frères et sœurs. Parce que l'Église est une mère qui engendre. À la veillée pascale, on assiste à un engendrement, presque à un accouchement, je dirais, de l'Église qui engendre de nouveaux enfants dans l'Esprit-Saint. Mais quand vous avez votre petit frère qui arrive à la maison après que votre mère est accouchée, vous ne laissez pas le petit frère dans votre coin. Vous venez vous extasier devant lui, vous voulez vous en occuper, vous le prenez dans vos bras. Voilà. Et ben, mutatis mutandi, je dirais que la communauté doit prendre soin des nouveaux enfants. Pas simplement de loin, mais peut-être d'abord en invitant. Moi, je dis aux fidèles, invitez les nouveaux baptisés.
C'est vrai.
Invitez-les un dimanche en disant, ah tiens, on serait content de vous recevoir. Et puis, comment est-ce qu'on leur donne une place, que ce soit à la chorale, que ce soit dans l'équipe du secours catholique, que ce soit simplement pour aider à préparer un buffet, un
Oui,
pique-nique.
c'est ça.
Un déjeuner partagé, rendre des services, être là, garder les enfants pendant la messe, je ne sais pas. Mais je trouve que chacun doit trouver sa place.
Et peut-être aussi les aider, peut-être aussi à comprendre aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de j'ai envie de dire, même la messe est quand même très codifiée, hein. Il faut
Oui.
se lever, il faut s'asseoir, comprendre la messe, comprendre vraiment ce qui se passe, bien évidemment dans la charité, mais quand on a été dans une église pendant des années et qu'on connaît, j'ai envie de dire, par cœur, c'est comme quand on conduit une voiture, les réponses de la messe, etc., de pouvoir les expliquer aussi, il y a une sorte de pédagogie dans la charité, parce qu'ils découvrent beaucoup de choses, il y a des catéchumènes, enfin des nouveaux baptisés qui vont arriver, qui... Bon, ils ont fait ce chemin, ce parcours pendant 1 an, pendant 2 ans de formation, mais il y a encore plein de choses. Il y a plein de questions, en fait, qui se posent pour
C'est ça.
eux et peut-être
Voilà.
les accompagner aussi à mieux comprendre ce qu'ils vivent aussi
Oui,
et ce qui se vit dans la
c'est
communauté.
extrêmement important que la liturgie ne soit pas quelque chose d'incompréhensible, d'abscon, vous voyez, parce que de fait, il y a des termes. L'autre jour, quelqu'un me disait, c'était un protestant qui me disait, Mais qu'est-ce que ça veut dire « et avec votre esprit » ? Parce que vous dites tout, souvent « le Seigneur soit avec vous », puis les gens disent « et avec votre esprit », mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est vrai que... Il y a beaucoup de choses qui sont évidentes pour nous et dans lesquelles il faut introduire les nouveaux baptisés.
Ce qui donne aussi de bonnes questions pour sa propre foi aussi.
C'est ça.
Bientôt, il y aura aussi la confirmation de 200 adultes. Est-ce le fruit de votre prière, cet afflux ? Est-ce la prière de l'Église ? Comment vous le vivez, vous ?
C'est difficile de savoir. Hein. En tout cas, ce que je remarque, moi, c'est que c'est peut-être le fruit de notre prière. Mais quand on lit les récits... Ça n'est pas tellement le fruit de nos efforts pastoraux. Les gens disent pas « Ah ben moi, j'ai demandé la confirmation parce que j'ai été à une conférence organisée par la paroisse ou parce que les chrétiens ont organisé une mission. » Vous voyez, je trouve qu'on a l'impression, par exemple, de semer d'un côté et puis de récolter d'un autre côté, quoi. Donc ça nous tient dans l'humilité. Et c'est ça qui est bon, c'est que les gens viennent... sans que ça soit le fruit de nos efforts, comme si on me disait « Ah ben tiens, on a réussi notre coup. » Bon, donc il y a certainement de la prière, puis il y a la grâce du Saint-Esprit, ça nous suffit.
Merci Monseigneur.
Merci Laurence, et je souhaite à tous les catéchumènes un saint baptême et une belle confirmation.